Direct en jeu, la radio insolite. Vous savez que j'adore les coulisses, c'est ce que j'ai l'habitude de faire très souvent, parce que justement on aime bien mettre un peu en lumière des gens qu'on voit moins, des gens qui sont discrets, qui sont humbles, mais qui font des choses extraordinaires. Et là je suis avec Nathalie de l'association Invitéâtre.
Oui, bonjour. Alors extraordinaire, je ne sais pas. Hein. Mais oui, l'association Invitéâtre est une association dont l'activité a démarré en 1995 au moment des grèves, puisqu'à l'époque, on s'occupait d'un spectacle au Lucernaire et que les grèves ont démarré juste à ce moment-là et qu'il a fallu néanmoins remplir cette salle et poursuivre l'activité de ce spectacle, ce qu'on a réussi à faire. Enfin, ce que j'ai réussi à faire, d'ailleurs, j'étais un peu toute seule à faire ça. Puisque les autres membres de l'équipe étaient occupés à d'autres tâches et donc chacun, et moi mon job c'était de faire en sorte que la salle soit le plus pleine possible. Et Invitéâtre a démarré comme ça, c'est-à-dire complètement par hasard, pas du tout avec l'objectif de faire quelque chose de particulier. Et quand ce spectacle s'est arrêté, on a tenu 100 représentations. Pendant ces 100 représentations, on a rencontré et connu beaucoup de gens de ce milieu du théâtre. Et on s'est fait quelques amis, et quand l'aventure de ce spectacle-là a été terminée, on est venu me voir en me disant « Dis donc, Nathalie, tu voudrais pas, tu sais, j'ai un spectacle qui démarre là, tu voudrais pas faire un petit peu ce que tu as fait ?» C'est comme ça qu'a démarré Invitéâtre. Et puis, c'est devenu une activité tellement importante, à la fois en temps passé et en quantité de travail, qu'en 2006, j'ai créé l'association. Mais l'activité elle-même avait déjà démarré depuis un certain temps. Donc voilà, c'est une association qui maintenant continue son petit... Alors on est bénévole, on est bénévole à 80% puisque on a des abonnés qui règlent un petit abonnement de 40 euros par an, ce qui leur permet d'avoir accès à la gazette mensuelle d'Invitéâtre. Et dans cette gazette mensuelle, il y a des spectacles pour lesquels on nous a donné des invitations. Ça permet au spectacle de démarrer un petit peu plus confortablement en attendant que le bouche à oreille s'installe. Et ça présente un autre aspect qui est intéressant et que les professionnels de la profession connaissent bien. C'est plus facile pour les comédiens de démarrer un spectacle avec un petit peu plus de monde dans la salle parce que le retour du public, c'est quelque chose d'important pour les comédiens et c'est quelque chose qui va parfois modifier leur travail sur scène, hein, tout simplement. Donc, nous, on amène ce petit confort-là au départ. Et puis, parfois... Il y a eu des périodes, l'après-Covid, c'est quelque chose de terrible pour le théâtre. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne comprends pas pourquoi on est un des seuls pays qui a fermé tous les théâtres pendant si longtemps. Ça, c'est un grand débat, de laisser les commerces ouverts et de fermer les théâtres, qui n'étaient pas des lieux de contamination, fin de la parenthèse. Donc, tout ce milieu du théâtre, en tout cas une grande partie de ce milieu du théâtre, a souffert. Et pour l'instant... On n'arrive pas encore à retrouver le niveau de remplissage des salles d'avant Covid. Et voilà, je pense que ça a été vraiment dur. Donc, Invitéâtre est là. Pas que, hein, on n'est pas les seuls. Mais voilà, on est là pour soutenir le spectacle vivant. Il y a des jeunes troupes, il y a des jeunes compagnies, il y a des théâtres qui se battent comme des lions. Pour que l'activité continue et nous on est très solidaires de ça et voilà et donc on doit avoir 150 abonnés qui donc règlent 40 euros par an. Évidemment c'est pas ça qui fait vivre Invitéâtre, c'est un petit coup de main, mais on est effectivement à 80% bénévole. Ça veut dire que par notre travail extérieur, si je puis dire, on finance Invitéâtre, on finance l'existence d'Invitéâtre. Mais je n'arrêterai ça pour rien au monde. Je ne pourrais pas vivre sans Invitéâtre, en fait. Je ne pourrais pas vivre heureuse sans Invitéâtre. C'est, je ne sais pas comment dire ça. C'est de l'oxygène, c'est du plaisir, c'est aussi de la fraternité quelque part. Oui. Voilà, c'est un peu long comme présentation, non?
Non, mais je trouve que c'est excellent parce que justement, ça présente bien tout ça. Uniquement le théâtre, ou à un moment donné, il y avait une pensée d'ouverture à toute la culture?
Non, uniquement le théâtre. Uniquement le théâtre parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec le théâtre. Et puis parfois, on fait le lien aussi. Hein. Moi, ça m'est vraiment souvent arrivé maintenant, depuis le temps, on connaît beaucoup, beaucoup de monde et on est un petit peu connu dans ce milieu du théâtre. Ça me permet aussi parfois de présenter des gens à des gens. Voilà, parfois ça permet de faire un petit peu le travail du lien. Ça, c'est vraiment très très important et c'est intéressant aussi. Mais non, juste le théâtre. Mais oui, déjà ça occupe. Et Avignon, depuis 2001 ou 2002, je ne sais plus. Enfin, ça fait un bail quoi en fait. Donc Avignon. Alors. On dit beaucoup de mal d'Avignon, chaque année, on en dit de plus en plus, etc. J'entends tout ça. Évidemment qu'il y a des défauts dans ce système, évidemment qu'il y a des profiteurs que nous appelons, que nous pourrions appeler les Thénardier. Voilà, il y a des prix de location qui sont absolument honteux. Je parle des prix de location de salles, hein. Mm-hmm. Honteux. Moi, je veux bien qu'on gagne sa vie. Et si on fait les choses de façon très intelligente et qu'on est performant et qu'on est, je suis pas du tout contre le fait que les gens gagnent de l'argent, pas du tout. Mais franchement, il y a un abus considérable et c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait aucun. Alors peut-être que je dis une énormité, peut-être que je me trompe, je sais pas, mais qu'il n'y ait pas de règles par rapport à ça, de règles morales. Simple, logique, pleine de bon sens. C'est pas normal que des compagnies s'endettent pour venir faire Avignon. D'autant que si on veut enfoncer un petit peu le clou, allez, allons-y. On pourrait dire que c'est quand même un sacrifice annoncé parce que je crois qu'il y a combien, 1500 spectacles ?
1493.
Je me souviens d'une époque où il y en avait 500 et on disait « Oh là là, mais c'est beaucoup trop !» Donc là, c'est pareil, là encore, si on a 1493 spectacles et que la quantité de spectateurs n'est pas extensible, il est évident qu'on va sacrifier une très grande quantité de personnes. Et je ne trouve pas ça bien. Voilà, je trouve pas ça bien. Alors maintenant, vous me direz, ou on me dira, que les gens qui viennent avec leur spectacle viennent en toute connaissance de cause. Mais néanmoins, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez violent. Voilà. Maintenant, le côté positif, il y a aussi un énorme côté positif, c'est que, bien sûr, nous, avec Invitéâtre, il y a des tas de spectacles qu'on a soutenus pendant l'année, on les retrouve, on en retrouve de nouveaux. On essaie d'organiser des soirées pour que les gens se rencontrent, c'est ce qu'on fait. Il y a des choses extrêmement joyeuses dans le Festival d'Avignon. Il y a des gens qui sont contents de se voir, de se retrouver. Il y a des gens qui sont heureux d'aller au théâtre. Il y a des fous de théâtre qui voient entre 4 et 6 spectacles par jour. On les aime, ceux-là. On les aime. C'est vrai, quand je croise les comédiens qui sont en train de tracter... Je me dis, il y a de la passion, il y a du plaisir à être là, à faire ce métier qu'ils aiment, dont ils ne peuvent pas savoir le temps que ça va durer. Est-ce que je serai encore comédien dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'est difficile de le dire. Il n'empêche que là, dans ce moment présent, ils sont en train de faire ce qu'ils aiment. Donc c'est précieux, quoi.
Alors, il y a une vraie réalité, puisque on s'est mobilisé il y a 4 ans, parce que même le public, quand il veut venir, les hébergements partent à des prix complètement fous, ce qui est un peu étonnant, ce qui est un peu dommage, parce que je trouve que il faut pas tuer le bébé, il faut pas jeter comme dire le bébé avec les dents, j'arrive pas à me rappeler la phrase, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que les coûts peuvent aller jusqu'à 50 000 euros, c'est impressionnant, et il y a certaines compagnies qui n'osent pas venir à cause de ça, ou qui viennent moins longtemps et tout. Là, il y a des fois où je me dis, mais où se trouve l'âme de Jean Villard? Je vous rappelle que directeur jeu, comme on est basé à Villeurbanne, évidemment avec notre TNP et Jean Villard, où se trouve l'âme de Jean Villard? notion de théâtre, est-ce qu'on ne mélange pas les choses?
Alors, ouais, c'est facile à tous.
Ouais. Exactement. Et puis il y a aussi la notion de, alors, je suis un peu choquant dans le langage, de ce que j'appelle le vrai théâtre. C'est pas le garage qui est loué et qui est équipé juste pour le mois de juillet et tout, pour accueillir les spectacles. Ça, c'est important. Est-ce que tu as eu le temps d'aller voir des spectacles?
Alors, très peu, parce que je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Mais, alors, il y en a certains que je connais parce que je les ai vus à Paris. Et d'autres dont je suis certaine que ce sont des joyaux. Bon, alors, évidemment, alors je mets mes lunettes, voilà. C'est très dur, il y a un moment, il faut mettre les lunettes, c'est ça, ben oui, c'est ça. Alors, on va commencer, je ne sais pas, lorsque Françoise paraît, ça c'est magnifique, c'est Françoise Dolto avec Sophie Fort dans le rôle titre et deux partenaires merveilleux. Cette pièce est un bijou, vraiment. Sophie interprète Dolto de son plus jeune âge jusqu'à ce qu'elle soit une vieille dame. C'est magnifique, donc ça je recommande vraiment. Marée haute. Il faut absolument aller voir Marée haute aussi. Josiane Pinson, un texte superbe de Benoît Groult. Alors Marée haute, de mémoire, c'est au Théâtre de l'Étincelle, c'est à 13h20. Voilà, Françoise Dolto, lorsque Françoise paraît, c'est Atelier Théâtre Actuel à 10h. Voilà, il faut aller voir ces spectacles-là. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de Eldorado 1528. On ne change pas une équipe qui gagne. Alexis Moncorgé, Caroline Darnay. C'est vraiment... moi, j'ai un grand souvenir de Hammock, et c'était déjà cet acteur et cette metteuse en scène, deux artistes très, très talentueux. Et là, je n'ai pas encore vu ce spectacle, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va être magnifique, que c'est magnifique, et ça commence à bruisser dans Avignon. Donc, Eldorado, c'est au Théâtre du Roi René, à 16h20. Britannicus, bien sûr. Alors ça, je l'ai vu l'année dernière, mais il faut y courir, hein, Britannicus. Hein. Les Épinoirs, c'est... Ah, mais d'ailleurs, je crois que tu as interviewé Tchavdar Penchev.
Exactement, tout à fait. Ça. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, il a... Moi, quand je l'ai interviewé, je lui ai dit, mais c'est un sujet qui est un peu complexe et tout.
Et il a réussi à montrer que ça pouvait être totalement accessible, la manière dont il le présentait.
Il a raison, mais c'est flamboyant, hein. C'est flamboyant, c'est généreux, c'est complètement excessif, mais c'est magnifique, magnifique. Et alors, Britannicus, Théâtre du Balcon, 19h55. J'ai encore combien de temps?
On a tout le temps
qu'on veut. On a tout le temps qu'on veut? Alors, on a tout le temps qu'on veut. Alors, si on a tout le temps qu'on veut, Alter Ego, au Théâtre des Lucioles, excellent spectacle. Excellent spectacle, je crois que c'est une mise en scène d'Isabelle Jambreau. Isabelle Jambreau qui a une grande metteuse en scène aussi. Alors, voyons voir. Sandra Colombo au Notre-Dame à 16h20. Alors, tout le monde en parle. Donc, je ne l'ai pas encore vu, je vais y aller. Tout le monde en parle. Sur le fil, ah, mais ça c'est encore Sophie Fort, il faut y aller aussi. Théâtre du Roi René. Il y a beaucoup de bonnes choses au Théâtre du Roi René. Hein. Mm-hmm. Et puis, alors, Ma Sérafine, ça c'est pareil, je pense que c'est un bijou, c'est à l'espace Roseau Teinturier à 18h35, voilà Ma Sérafine. Alors Ma Sérafine et puis Marée haute et puis Swingum et puis Saudade, ce sont des spectacles dont s'occupe une équipe formidable. Alors j'espère que je ne vais pas dire de sottises, mais Bénédicte Ouvry, Alexis Dessau, Cinéthéacte, c'est l'équipe qui s'occupe de gérer tout ça et d'autres choses encore. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée, sinon je vais me faire engueuler. Voilà. En tout cas, Saudade, Théâtre des Trois Soleils, voilà, tout le monde en parle aussi. Et Swingum, c'est déjà un carton, Théâtre des Trois Soleils également. Swingum, c'est à 16h25 et Saudade à 13h05. Bon, je crois que c'est... Ah, Après le Chaos. Mais bien sûr, j'allais oublier ça. Non, alors, Après le Chaos, très beau texte, assez dur, voilà, il faut y aller avec le moral, parce que c'est pas une histoire rigolote, mais c'est magnifique, grande comédienne, c'est puissant, c'est très incarné, c'est vraiment un très beau spectacle. Et puis, écoute, c'est déjà pas mal, hein, quand même, hein. C'est pas mal.
Dans tous les spectacles que tu as présentés, ce qui me fait plaisir, si je puis me permettre, en dehors de Sophie Forte, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas connus. Est-ce que c'est ça, Avignon, le fait de découvrir des gens qui ne sont pas connus?
Oui, bien sûr, parce que, oh là là, on pourrait en parler des heures du système du vedettariat et des gens connus et machin, etc. Et c'est tellement fatigant tout ça, en fait. Parce que quand une personne est connue et qu'elle a du talent, bah, c'est merveilleux, voilà. Mais quand une personne est connue et qu'elle a moins de talent qu'une personne qui est moins connue,
tout à fait.
Et je ne vais pas arriver à finir cette phrase... Mais ça n'est pas grave, on a compris le concept.
C'est tout à fait.
Voilà, c'est... Alors, je ne sais pas comment dire. Voilà, c'est j'ai été longtemps, il y a des années, dans une autre vie, j'ai été longtemps formatrice en entreprise et je faisais de la formation et je disais toujours aux chefs d'entreprise, par rapport à cette fameuse histoire de hiérarchie, je leur disais, mais la hiérarchie, on s'en fout. Les gens importants sont les gens qui font bien leur travail. Point à la ligne. Et on peut mettre ça en parallèle avec les gens qui vont nous éblouir et qui vont nous intéresser et qu'on va aimer sont les gens qui ont du talent. À partir du moment où ils ont du talent, pour moi, ils font partie des élus, en fait.
Oh, c'est joliment dit, là.
Je n'avais pas répété cette phrase. Elle est venue comme ça. Non, mais c'est profondément ce que je pense. C'est profondément ce que je pense. Il y a des gens, en fait, pour te dire... Ah oui, ça c'est drôle. Pourtant, ça fait vraiment longtemps que je vais au théâtre, vraiment longtemps. Je vois beaucoup de spectacles. Quand je me retrouve à voir un spectacle avec une personne ou des personnes qui ont beaucoup de talent, je suis tellement impressionnée que je ne peux pas aller les attendre à la sortie. Je ne peux pas. C'est impossible, en fait. Ou alors, quand je le fais, je dis des conneries. C'est épouvantable. C'est quelque chose qui m'impressionne complètement. Autant la hiérarchie, le pouvoir, le machin, mais je m'en contrefiche. Mais des gens qui ont du talent m'impressionnent. Mais vraiment, ça veut dire que je vais bafouiller, je vais devenir, je ne sais pas, bête, voilà. Mais, non, mais vraiment. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus impressionnant que le talent, en fait. C'est la grâce, c'est le miracle, quoi. C'est quelqu'un qui est là... Je me souviens, j'avais posé la question il y a très 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 longtemps à ma fille quand elle était toute petite. Et je lui avais demandé, on parlait de ça, et je lui avais demandé, mais qu'est-ce que c'est être comédienne? Et elle m'avait dit, c'est de faire semblant et qu'on croit que c'est vrai. Et c'est exactement ça. Et donc ça nous ramène à l'enfance, bien sûr, mais ça nous ramène à beaucoup d'autres choses. Ça nous ramène surtout au fait qu'il y a tellement peu de gens dans ce monde qui est dur, qui est violent, qui est injuste, qui est bête parfois. Il y a tellement peu de gens qui arrivent à nous faire croire à des choses magnifiques. Alors pas seulement des choses magnifiques, parce que parfois on peut nous raconter des histoires qui sont difficiles, mais arriver à nous faire croire, arriver à nous sortir de notre réalité, à nous sortir du présent et nous emmener avec eux dans ce qu'ils sont en train de nous raconter avec un tel talent qu'on va les croire. Donc c'est voilà, moi c'est pour ça que j'aime le théâtre en fait.
C'est vrai que chaque fois que je viens à Avignon, j'ai l'impression d'être dans une bulle. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. C'est pas que je ne suis pas curieux, mais moi, je reste dans cette bulle et tout. Avignon, c'est un passage incontournable pour une compagnie.
Oui, c'est sûr. C'est incontournable, bien sûr. Et on peut dire ce qu'on voudra. Et j'entends parfois des festivaliers d'il y a 20 ans, il y a 15 ans, dire oui, mais il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui sont moins bien qu'avant, etc. Sûrement. Est-ce que le pognon a pris beaucoup plus de place et beaucoup plus de pouvoir? Est-ce que les gens... alors ça, c'est la grande histoire. Ça ne concerne pas que le théâtre. Est-ce que ce sont vraiment les gens compétents qui ont le pouvoir? Alors là, on ne va même pas ouvrir ce débat-là, hein, parce qu'on y est jusqu'à demain matin. Donc c'est ça aussi l'injustice de ce monde. C'est que parfois, on se dit, on voit des gens qui ont du pouvoir... qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui sont des décisions importantes pour la vie des autres. Et ces gens-là n'ont pas la compétence qu'il faut pour ça, mais néanmoins, ils ont ce pouvoir. Voilà. Mais c'est pas seulement l'histoire du théâtre, ça, c'est l'histoire du monde aussi. Hein, donc, mais oui, on peut reprocher beaucoup de choses, bien sûr. Il y en a plein. Mais je ne raterai ce festival pour rien au monde, pour toutes les autres choses. voilà, pour tout le plaisir d'être ému dans une salle de théâtre, de rire, de pleurer, de ressortir en se disant « Ah, c'est génial, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir vu ça !» Puis d'en parler à tout le monde. « Ouais, va voir ça, tu vas voir, c'est bien. » C'est ça, Avignon.
C'est vrai qu'Avignon est en train d'évoluer aussi sur une autre chose. À Cannes, le marché du film est clairement identifié. Ouais. Et on sait comment dire que le Festival de Cannes, ça représente à peu près 40% de l'achat des films et des séries même. Alors qu'ici, j'ai l'impression presque honte de parler du fait que quand des programmateurs viennent ici en Avignon, l'avantage qu'ils ont, ils peuvent s'envoler pour certains 6 à 8 spectacles dans la journée, mais ils font leur marché. Et est-ce que c'est spécifique au théâtre d'avoir cette humilité de ne pas oser en parler ou quoi ?
Mais je n'ai pas du tout de réponse à ça. Je n'ai pas du tout de réponse à ça parce que je pense que de toute façon, dans les programmateurs, les gens qui s'occupent de diffusion, etc., les directeurs de théâtre, il y a forcément des gens passionnés. Il y a forcément des gens passionnés. Alors, est-ce qu'il y a des épiciers parmi eux ? Oui, sûrement. Sûrement, maintenant, j'ai du mal à avoir un jugement comme ça, très arrêté sur tout ça. Oui, il y a forcément... Oui, bien sûr, il y a forcément des gens qui ne font pas du bien au théâtre et qui mettent en avant des spectacles qui sont plus des produits que des spectacles.
Tout à fait.
Ça, c'est certain. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que tout le milieu du théâtre n'est fait que de ça ? Ben non, je ne crois pas. C'est... Voilà, moi, je me souviens, en 2008, avoir croisé... Alexis Michalik, Régis Vallée, Anami Alcea avec leur vélo qui tractaient, voilà. Et ils ont fait un chemin merveilleux depuis. Mais c'est passé par Avignon aussi. Et tant mieux, et bravo. C'est, voilà. Alors après, est-ce qu'on doit penser que quelqu'un est forcément perverti par le succès et l'argent ? La plupart des gens diront oui. Moi, je suis pas si sûre, en fait. Oui, il y en a qui sont pervertis, bien sûr. C'est tellement tentant. Mais tout le monde, je pense que tout le monde ne l'est pas. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui font très bien leur boulot de production et qui essayent de découvrir des choses. Mais bien sûr que l'argent, c'est agréable. Ça fait penser, ça fait penser à cette phrase de Dorothy Parker qui disait « J'ai été riche, j'ai été pauvre, riche, c'est mieux ». Bien sûr, évidemment. Qui dira que ça n'est pas agréable d'avoir de l'argent ? Qui dira ça ? C'est agréable. Maintenant, c'est drôlement bien quand quelqu'un s'enrichit et ne perd pas son âme et continue à nourrir ses passions et continue à être le plus possible ouvert sur les autres. Voilà. Est-ce que c'est courant ? Je ne sais pas, mais ça doit être possible.
Dernière question, parce que le plaisir est toujours agréable, mais là on est en train de se faire une émission spéciale un peu inattendue, mais qui est très agréable. Que dirais-tu à de jeunes comédiens ?
Je te remercie pour cette question qui tue à la fin de l'interview. C'est une espèce de commenté en fait. Alors, à des jeunes comédiens, je leur dirais de n'écouter quasiment aucun conseil. Et d'écouter leur cœur et surtout de de faire ce métier s'ils ont la passion de ce métier et de se dire que ça n'est pas grave s'ils ne deviennent pas des comédiens professionnels, s'ils ne deviennent pas célèbres, en tout cas, si au moment où ils font quelque chose, ils ont profondément envie de le faire, il faut le faire le mieux possible. Voilà, enfin, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Parce qu'après, il y a tellement d'aspects qui, moi, peuvent complètement m'échapper. Voilà. Moi, je me souviens que ma grand-mère me disait... Elle disait beaucoup de choses, ma grand-mère. Mais c'était mon prophète, un peu, ma grand-mère. C'était mon philosophe. Et elle me disait, quoi que tu fasses, fais-le le mieux possible. Bon, voilà. Je trouve que c'est une bonne base et ça a l'air simple. Ça a l'air simple, ça a l'air un peu presque simpliste. Ça n'est pas du tout ni simple ni simpliste en fait. Et des jeunes comédiens pleins de passion, qui rêvent à un avenir, etc. Ben voilà, je peux tellement imaginer tout ce qu'ils peuvent ressentir et tout ce qu'ils peuvent espérer. Mais il faut pas se rendre malheureux. Il faut faire ce qu'on aime au moment où on a envie de le faire, mais il ne faut pas se rendre malheureux.
Comment on fait pour découvrir l'association? Si j'ai envie de te contacter, si j'ai envie d'avoir plus d'infos.
Si vous voulez soutenir l'association Invitéâtre.
J'aime bien voilà. Le soutenir.
Oui, mais bien sûr. Alors, il y a une boîte mail qui est invitéâtre@gmail.com. Et au bout de cette boîte mail, il y a une jeune personne qui s'appelle Virginie. Et elle explique exactement comment il faut faire pour soutenir l'association Invitéâtre. En fait, c'est relativement simple. Ça quitte d'une cotisation de 40 euros par an. Et ça permet d'avoir accès à la Gazette. Et vous me direz, oui, mais si je n'habite pas à Paris, eh bien, si vous n'habitez pas à Paris, vous pourrez peut-être, de temps en temps, quand vous venez à Paris, en profiter quand même. Et puis, de toute façon, 40 euros, en gros, c'est amorti au bout de 3 invitations, quoi. Donc voilà. Et bien sûr, on n'est pas du tout contre les mécènes. On aime les mécènes. Voilà. S'il y a des gens extrêmement riches qui ne savent pas quoi faire de leur argent, et il y en a, je le sais, eh bien, nous sommes là. Bon, voilà. J'ai répondu à ta dernière question.
Je te remercie, puis merci surtout d'avoir été authentique, sincère, franche là-dessus. Merci à toi.
Avec plaisir. À bientôt.